l'information, c'est avec Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Damien Abad, face à des accusations de viol de femmes, accuse le nouveau ministre des Solidarités. Damien Abad a fait l'objet d'un signalement auprès de La République En Marche et du Parti Les Républicains quelques jours avant sa nomination. Signalement par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Damien Abad nie en bloc les accusations. La première ministre Elisabeth Borne assure qu'elle n'était pas au courant. Caroline De Haas, militante féministe et membre du Parlement de l'Union Populaire.
Quand vous nommez des personnes ministres, qu'il y ait eu des plaintes ou pas, qu'il y ait eu des affaires qui aient été classées ou pas, vous vérifiez quand même le niveau d'exemplarité de ces personnes-là.
Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine et l'armée russe qui pilonne l'est du pays et le Donbass. Sur le plan diplomatique, le président Zelensky continue de réclamer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une démarche qui va prendre au moins 15 ans, indique Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes. Nous serons à Kiev dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Le retour embarrassant en Espagne de l'ancien roi Juan Carlos. Manifestation aujourd'hui à Madrid. Juan Carlos a été au cœur ces dernières années de plusieurs scandales financiers. Et en fin de journal, nous rendrons hommage à Mystique, considérée comme la princesse du graffiti et du street art. Elle est morte aujourd'hui à l'âge de 66 ans. La page sport de ce journal avec Roland Garros, premier coup de raquette aujourd'hui pour le début du tournoi de tennis. Et nous reviendrons également sur le PSG et la révolution qui démarre autour de Kylian Mbappé. Notre rendez-vous du dimanche 19h avec l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Et l'un des temps forts, c'est Cannes et la cérémonie de clôture du festival avec le palmarès samedi prochain. La météo pour demain, chute des températures, 21 départements en vigilance orange aux orages. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Briam.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment marche une benne à ordures. Merci.
Réponse dans les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
La guerre meurtrière en Ukraine va entrer la semaine prochaine dans son 4e mois de combat. Et sur le terrain, l'armée russe continue de pilonner l'est de l'Ukraine et le Donbass, où se déroule en ce moment une bataille acharnée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky répète régulièrement qu'il souhaite l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président Zelensky recevait aujourd'hui le président polonais Duda. En direct de Kiev, on retrouve nos envoyés spéciaux en Ukraine, Marc Garvenest et Nathanaël Charbonnier. Bonsoir Nathanaël.
Bonsoir à tous.
Alors les deux hommes se sont vus dans le palais présidentiel à Kiev sous haute protection.
Ah oui, ce qui est marquant, c'est le calme qui entoure les conférences de presse du président ukrainien. Celle d'aujourd'hui avait lieu dans une grande salle du palais, mais avant d'arriver, eh bien, vous devez avoir votre accréditation. Tout le parcours qui mène au palais est surveillé par des militaires armés jusqu'aux dents. Vous êtes évidemment fouillés, on vous prend vos téléphones, mais tout cela se fait sans aucune nervosité, mais dans un sérieux absolu, jusqu'à l'arrivée du président par une petite porte dorée.
Et puis, Nathanaël, sur le plan diplomatique maintenant, le sujet qui préoccupe le président Zelensky, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Oui, et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les Ukrainiens ont l'impression d'être traités comme des Européens de seconde zone par certaines capitales. La seconde, c'est que le président Zelensky plaide pour qu'un coup d'accélérateur soit donné à l'adhésion de son pays. Son argument est de dire que l'Ukraine défend non seulement son territoire, mais aussi une certaine vision du monde. Conséquence, l'Europe, en signe de remerciement, devrait lui ouvrir ses portes plus facilement. Et pour ce faire, eh bien, il cherche des alliés. Cet après-midi, par exemple, il recevait, vous l'avez dit, le président polonais avec qui il a eu un échange dense. À l'arrivée, mission accomplie avant de repartir pour Varsovie, le président Andrzej Duda s'est prononcé pour renforcer les liens avec l'Ukraine.
Il me semble que cela serait dommage, voire une grande faute historique, si nous n'utilisons pas ce moment pour intensifier les relations avec l'Ukraine dans tous les domaines possibles.
La Pologne, amie des Ukrainiens, la France aussi, puisqu'Emmanuel Macron avait déclaré que l'Ukraine est membre de cœur de l'Union. Le président Zelensky aimerait juste que la France joigne le geste à la parole.
Nathanaël Charbonnier avec Marc Garvenès en direct de Kiev, merci. Et cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va prendre du temps, sans doute 15 ou 20 ans, selon Clément Beaune. Le ministre délégué chargé des Affaires européennes était l'invité aujourd'hui de Radio J.
le président de la République a proposé une communauté politique européenne. Le nom, on peut en discuter, mais l'idée, c'est de dire l'Ukraine, et peut-être d'autres pays, veulent entrer dans l'Union européenne, ce projet politique. Et il est évident que ces pays doivent rentrer dans la famille politique européenne. Mais il faut être honnête. Si on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. C'est sans doute peut-être 15 ou 20 ans, peu importe, c'est long. Il y aura peut-être une adhésion. Mais en attendant, on doit aux Ukrainiens, c'est du plus, un projet politique dans lequel ils peuvent rentrer, bénéficier en partie du budget européen. C'est un projet complémentaire de l'Union européenne qui peut offrir un projet politique à des pays qui ne sont pas dans le cœur de l'Union européenne, mais qui veulent se rapprocher de nous.
Clément Beaune, le ministre délégué chargé des affaires européennes. L'actualité politique mouvementée ce dimanche soir est le début du nouveau gouvernement entaché par une affaire de violence sexuelle présumée. À peine nommé, Damien Abad, le ministre des Solidarités et ancien patron des députés LR, est accusé de viol par 2 femmes, des accusations révélées par Mediapart et que conteste avec la plus grande force Damien Abad dans un communiqué publié aujourd'hui. L'une des 2 femmes avait porté plainte en 2017, plainte classée sans suite. Une 2e femme a contacté l'Observatoire des violences sexuelles sexiste et sexuel en politique pour des faits présumés de viol. L'Observatoire indique avoir envoyé un signalement par mail à La République En Marche et au Parti Les Républicains ainsi qu'au parquet de Paris entre le 16 et le 20 mai. Le parquet confirme avoir été destinataire le 20 mai de ce signalement. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Premier conseil des ministres demain et première tempête pour le nouveau gouvernement Borne.
Oui, c'est un conseil des ministres qui devait servir de rampe de lancement à Elisabeth Borne et donner une coloration sociale au gouvernement avec la prolongation du bouclier tarifaire, le triplement de la prime Macron, le chèque alimentation. Mais la mise en cause de Damien Abad bouleverse l'agenda et oblige la première ministre en campagne dans le Calvados pour les législatives à prendre la parole.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
Réaction rapide, mais insuffisante. Damien Abad n'aurait jamais dû être nommé, lance Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Rejoint par Caroline De Haas, pour la militante féministe, le gouvernement ne pouvait pas ignorer les accusations qui visent le nouveau ministre.
Il y a plusieurs possibilités. Soit nos services de renseignement sont vraiment très très mauvais, soit l'information ne circule pas chez eux. Quand vous nommez des personnes ministres, qu'il y ait eu des plaintes ou pas, qu'il y ait eu des affaires qui aient été classées ou pas, vous vérifiez quand même le niveau d'exemplarité de ces personnes-là. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le quinquennat précédent. François de Rugy, par exemple, a été débarqué, mais genre très rapidement du gouvernement, parce qu'il était mis en cause pour des notes de frais abusives.
Et la nécessité d'une réaction forte et rapide, c'est aussi ce que met en avant Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle que dans l'affaire Tara Bouafs, écartée des législatives à cause d'un soupçon de violence sexuelle, la décision a été prise à la France Insoumise en 3 jours. Il appelle Damien Abad à en tirer des conclusions personnelles.
Antoine Gignot, merci. Concernant les législatives, les ministres candidats les 12 et 19 juin prochains devront démissionner en cas de défaite. L'Élysée indique que cette tradition républicaine et cette règle édictée en 2017 est maintenue. 15 ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne sont candidats aux élections législatives et donc concernés par cette règle. La première ministre est elle-même candidate dans la 6e circonscription du Calvados. Pour le gouvernement, tout comme la hausse des prix pour protéger les Français contre l'inflation. L'écologie est aussi annoncée comme une priorité. Pascal Canfin, l'eurodéputé vert Renew LREM et ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, s'élève contre l'écologie politique et la stratégie de la NUP et l'accord électoral entre la France Insoumise et les principaux partis de gauche. Pascal Canfin, invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter, estime que les Verts tournent le dos à leur histoire.
Moi, je me suis engagé en politique avec Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, très pro-européen. L'écologie en Europe, partout, est très pro-européenne. Et donc, je constate avec tristesse, puisque j'en ai fait partie, que l'écologie politique française part sur des chemins de l'extrême-gauche, de la désobéissance européenne. Et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que c'est totalement inefficace sur le plan climatique. Prenons, encore une fois, le président de la République a évoqué dans le débat avec Marine Le Pen l'exemple du syndic de copropriété. Moi, je trouve ça très très bien. Imaginons qu'on forme là, autour de la table, un syndic de copropriété. Si j'arrive en disant, alors les règles du jeu, c'est simple. De toute façon, on va se les fixer. Si je suis pas content, moi, je désobéis. La négociation, elle commence ou elle s'arrête? Ou vous me dites, bah non, si on se fixe des règles du jeu ensemble, on les applique ensemble.
Pascal Canfin dans Question Politique avec Thomas Snegaroff. Une information pratique pour les usagers des transports en commun en Ile-de-France. La RATP indique que le trafic sera fortement perturbé demain lundi sur les réseaux de bus et de tramway en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats. Ce mouvement de grève de 3 jours ne devrait pas affecter les métros et le RER, seulement les bus et le tramway. À l'étranger, en Espagne, le retour embarrassant de l'ancien roi Juan Carlos, 84 ans, exilé à Abu Dhabi depuis presque 2 ans. Juan Carlos s'est trouvé ces dernières années au cœur de scandales financiers dont les enquêtes ont été classées sans suite. Arrivé en Espagne cette semaine, il rencontrera demain sa famille à Madrid et en premier lieu son fils, le roi Felipe VI, avant de repartir pour les Émirats Arabes Unis. Sa première réapparition en Espagne depuis de longs mois a entraîné une polémique et une manifestation. Aujourd'hui à Madrid, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur une place tout près du Palais Royal pour critiquer cette courte visite. Sur place à Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
Sur la place d'Isabelle II, une ancienne reine espagnole de la dynastie des Bourbons est juste à côté du Palais Royal, l'ancienne résidence des monarques espagnols. Une trentaine d'organisations antimonarchiques et républicaines se sont donné rendez-vous à la mi-journée pour manifester leur colère. Parmi elles, Maria, jeune retraitée. La visite du roi Juan Carlos en Espagne l'indigne.
Tout le monde devrait être ici pour protester contre cet homme indécent. Si je le voyais, j'aimerais pouvoir lui parler et lui dire ce que je ressens en tant que citoyenne espagnole. J'ai honte pour lui et pour la monarchie qui est obsolète. On dirait qu'on vit encore au temps des cavernes. Une personne ne peut pas être désignée parce que c'est le fils d'eux, mais parce que c'est les gens qui la choisissent. Il doit s'asseoir sur le banc des accusés.
Maria regrette que les Espagnols ne soient pas descendus en masse aujourd'hui à Madrid pour crier leur colère, alors que d'autres ont préféré acclamer l'ex-roi d'Espagne dès sa descente d'avion en Galice, jeudi dernier. Nacho fait partie des jeunesses communistes, lui aussi ne décolère pas.
Je pense que c'est une honte. Nous ne savons toujours rien quasiment de toutes les magouilles qu'il a faites. Nous sommes totalement indignés, il nous rit au nez en gros.
Une partie de la population espagnole réclame des explications au roi émérite et espère le voir un jour assis sur le banc des accusés. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter.
Et puis en France, on a appris la mort de Mystique, une figure du street art parisien. Mystique avait 66 ans. Elle était connue pour ses silhouettes de femmes brunes, sexies et poétiques, au pochoir sur les murs de Paris. La street artiste a façonné sa légende à coups de pochoirs et de graffitis. Mathieu Culeron.
Radia Nova avait emprunté son nom d'artiste Mystique à la sorcière de la bande à Picsou. L'artiste commence au milieu des années 80 à diffuser ses pochoirs sur les murs de Montmartre. L'ancienne plasticienne passe ensuite au théâtre de rue dans la compagnie Zéro de Conduite, puis illustre ses poèmes avec des images de femmes fortes et sexy qu'elle expose sur les murs. Souvent arrêtée et verbalisée pour dégradation, cette fille d'un père tunisien et d'une mère normande travaille ensuite pour la mode de Kenzo à Vuitton, puis signe l'affiche d'un film de Chabrol, La fille coupée en deux. Mystique était omniprésente sur les murs de la capitale. Ses messages, souvent féministes et poétiques, l'ont rendue célèbre au-delà de la France, notamment en Angleterre. Le Victoria and Albert Museum a acquis plusieurs de ses œuvres. Lors de la journée de la femme en 2011, la Poste émettra même des timbres reproduisant ses pochoirs. Street artiste à l'esprit punk, Mystique est décédé des suites d'une longue maladie à 66 ans.
Mathieu Culeron. Et puis à Cannes aujourd'hui, une immense banderole avec le nom des 129 victimes de féminicides en France a été déployée sur le tapis rouge par des membres d'un collectif féministe, Les Colleuses, à l'honneur d'un documentaire présenté dans l'après-midi sur la Croisette. Une autre action coup de poing féministe avait marqué vendredi le 75e festival pour dénoncer les crimes et les viols commis par les Russes en Ukraine. Il est 19h14. La page sport de cette édition. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir Frédéric.
Ça y est, c'est parti pour 2 semaines et le tournoi de Roland-Garros.
Eh oui, les premiers coups de raquette sur la terre battue de la porte d'Auteuil, les premiers échanges d'un tournoi qu'on annonce relativement ouvert dans le tableau masculin, un peu moins chez les femmes. Bonsoir Fabrice Abgral. Fabrice Abgral.
Bonsoir.
En direct. Bonsoir, Nicolas. De Roland-Garros. Bonsoir les femmes, justement, avec une Française sur le courant en ce moment, c'est Clara Burel.
Ouais, ça vient tout juste de se terminer, Nicolas. Il y a quelques secondes, et Clara Burel éliminée, la 95e joueuse mondiale, ex numéro 1 junior. Eh bien, la Bretonne s'est fait sortir du tournoi par Maria Sakkari, la numéro 4 mondiale et demi-finaliste l'an passé. Clara Burel s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-4. Pas de miracle, donc, pour la jeune Française de 21 ans. Elle n'a pas démérité, c'est vrai, mais il y avait quand même une classe d'écart. d'écart entre les deux joueuses.
6 Français en lice pour cette première journée, Fabrice, et un seul qualifié.
Oui, un seul qualifié pour l'instant, c'est Grégoire Barrère, le 209e joueur mondial, invité par les organisateurs. Le Parisien a gagné sa place pour le deuxième tour en dominant le 105e mondial, le Japonais Taro Daniel, en 5-7, alors que le Français était mené 2-7-1. Au deuxième tour, Grégoire Barrère affrontera l'Américain John Isner, vainqueur d'un autre Français, Quentin Alice, en 4-7 très serré. Le Français, 86e mondial, a remporté le deuxième set, mais a perdu les trois autres et tous les trois au tie-break. Score final, écoutez plutôt, 7-6, 4-6, 7-6. 7-6, autant vous dire que Quentin Alice est sorti du match plutôt frustré. Côté féminin, élimination de Carole Monet, mais aussi de Harmony Tan, 112e joueuse mondiale. Et puis on attend Kristina Mladenovic sur le court. Elle sera opposée à la Canadienne Leila Fernandez, la finaliste de l'US Open 2021.
Et puis on attend aussi le phénomène espagnol, évidemment, Carlos Alcaraz, celui dont tout le monde parle. Ses premiers pas sur le central ?
Oui, dans quelques instants, puisque maintenant que le match de Clara Burel est terminé, eh bien Carlos Alcaraz va faire son apparition sur le court Philippe Châtrier. Carlos Alcaraz sera opposé à l'Argentin Juan Ignacio Londero. Alors c'est vrai, c'est l'attraction, le joueur le plus attendu de la journée, évidemment. D'abord parce que il n'a que 19 ans, parce que aujourd'hui il pointe aussi à la 6e place mondiale, alors qu'il y a un an il n'était que 114e, et pourtant il arrive porte d'Auteuil avec le statut de favori. Et ce statut, eh bien cet Espagnol originaire de Murcie l'a gagné lors des trois derniers mois au cours desquels il s'est particulièrement distingué. Il a particulièrement brillé puisque Carlos Alcaraz a remporté 4 tournois, dont 3 sur terre battue, à Rio, à Barcelone, mais surtout le Masters 1000 de Madrid, où il a dominé successivement Nadal, Djokovic et Zverev en finale. Alors Carlos Alcaraz n'a peur de rien, croyez-moi, ni de personne. Envisager de gagner son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, eh bien ça ne lui fait pas peur du tout. Il assume complètement, ce qui serait un exploit considérable à 19 ans, l'âge qu'avait précisément, et c'est un clin d'œil, Raphaël Nadal quand en 2005 il a remporté le premier de ses 13 Roland-Garros.
Et puis enfin, Fabrice, pour être complet, ce seront sans doute pas les dernières, mais déjà 2 surprises à signaler.
Oui, les éliminations chez les dames de Ons Jabeur et Garbiñer Muguruza. Ons Jabeur, 6e mondiale, l'une des prétendantes au titre. Elle avait remporté notamment le tournoi de Madrid il y a quelques semaines. Elle a été éliminée par la Polonaise Magdalinette, 56e mondiale, en 3-7. Et puis c'est donc terminé. Et là, c'est la deuxième surprise pour Garbiñer Muguruza, l'Espagnole, 10e mondiale, vainqueur de Roland-Garros en 2016. S'est fait sortir par l'Estonienne Kaia Kanepi, 46e mondiale, en 3-7, 2-6, 6-3, 6-4. Sachez quand même, côté tête d'affiche, les qualifications de Grigor Dimitrov et de Félix Auger-Aliassime.
Merci beaucoup Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. Des poids lourds attendus demain avec l'entrée dans le tournoi de Rafael Nadal, de Novak Djokovic et de la grande favorite du tableau féminin, la Polonaise Iga Świątek. Roland-Garros qui retrouve son public et son visage d'avant Covid. Plus de masques dans les tribunes, plus de jauge, plus de QR code. Tout ça c'est terminé. Il ne manquait que le soleil aujourd'hui pour que le tableau soit complet. Roland comme avant pour Edouard, venu comme chaque année en famille.
Il y a beaucoup de monde, avec les bons et les mauvais côtés. Il y a beaucoup plus d'ambiance dans le stade, sur les cours. Beaucoup plus de monde dans les allées, beaucoup plus de temps pour trouver une glace. Mais sinon on en profite, c'est chouette. Ouais.
Ça avait manqué ça ?
Ouais, pour les joueurs et sur le cours, il manquait quelque chose, quoi. Donc ça ressemble un peu plus à avant.
Et c'est la première fois qu'on aura des tribunes également pleines pour les matchs programmés en nocturne. L'innovation reconduite cette année.
Et j'ajoute, Nicolas, un rendez-vous exceptionnel demain à 7h50. Alexandra Ben Saïd reçoit Raphaël Nadal. Allez, on passe au football et ce grand chantier qui démarre au Paris Saint-Germain.
Au lendemain d'une soirée agitée marquée par 2 événements majeurs pour le club, la prolongation pour 3 ans de la pépite parisienne Kylian Mbappé, pour le plus grand malheur du Real Madrid, et l'éviction dans la foulée du directeur sportif Leonardo. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Nicolas.
Un futur PSG axé donc autour de Kylian Mbappé. Pour le reste, eh bien, il va falloir reconstruire.
Et oui, le départ du directeur sportif Leonardo laisse un vide qu'il va falloir combler au plus vite. Le poste est stratégique pour le recrutement à venir. Si rien n'est finalisé pour le moment, un nom circule, celui de Luis Campos, ancien patron du recrutement à Lille et surtout proche de Kylian Mbappé depuis qu'il l'avait facilité sa venue à Monaco après son départ de Lille. Il apparaît comme compatible avec un projet centré autour de Kylian Mbappé. Un autre chantier se dégage, celui de l'entraîneur. Il est quasiment acquis que Mauricio Pochettino ne sera plus sur le banc la saison prochaine, malgré l'année de contrat qu'il reste à l'Argentin. Et le PSG devra aller vite dans la reconstruction de son organigramme. La logique veut qu'un nouveau directeur sportif prenne part au recrutement du nouveau coach. Enfin, il y a l'équipe centrée, elle, autour de Kylian Mbappé. Ça, c'est le projet du Paris Saint-Germain. Mbappé qui devient plus que jamais, et d'ailleurs plus que Messi ou Neymar, le joueur principal du club de la capitale.
Et on en saura davantage, sans doute demain, conférence de presse de Kylian Mbappé est prévu dans l'après-midi. En Angleterre, Manchester City décroche le titre en Première Ligue. C'est le troisième en 4 ans pour les Citizens qui ont eu chaud face à Aston Villa. Il leur fallait une victoire pour ne pas offrir ce titre à Liverpool. Ils l'obtiennent au terme d'un scénario fou face à Aston Villa, donc avec 3 buts en 5 minutes. Et puis le coup double signé Max Verstappen à Barcelone. Le Néerlandais remporte le Grand Prix d'Espagne. Il s'empare de la tête du championnat du monde de Formule 1. Le grand perdant, c'est le monégasque Charles Leclerc, contraint à l'abandon après un problème technique.
Parlons voile maintenant, avec ce qui sera le moment fort de l'année, la mythique route du Rhum entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le départ sera donné le 6 novembre prochain et à moins de 6 mois de l'échéance, les 136 marins inscrits ont déjà tous cet objectif en tête. Parmi eux, l'un des favoris, Armel Lecléache, à la barre de son trimaran géant et volant. Et pour se préparer, le navigateur a fait un choix plutôt original. Il a passé ses 10 derniers jours en Guadeloupe pour faire une reconnaissance du parcours, histoire de ne négliger aucun détail. Jérôme Val l'a accompagné dans les Antilles. C'est le long format de ce soir.
Le bateau file déjà à vive allure dans un alizé pourtant peu soutenu. Ce matin-là, la mer d'un bleu étincelant est à peine déformée par la houle.
On est en Guadeloupe, là, on est en approche du canal des Saintes. C'est quasiment le dernier tronçon de la route du Rhum ici. C'est les derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée.
La tête en dehors de l'habitacle de son bateau, le regard fixé sur l'horizon, Armel Lecléache ne ménage pas sa monture.
Là, on fait une petite pointe à 39 nœuds. C'était pas mal, non ? Ah, ça fait à peu près 75 km/h. Donc pour un bateau à voile, c'est plutôt pas mal. Avec 17 nœuds de vent. Bon, bah, deux fois la vitesse du vent, c'est plutôt sympathique comme condition et comme sensation.
Dans le cockpit, où les manœuvres se font, une partie de son équipe règle tous les paramètres de la navigation. Quelle voile utiliser, quelle position pour les foils, ces ailes qui permettent au bateau de voler.
On est bon, pour les foils, on est OK.
On prend un peu d'écarteur à bâbord,
ouais.
Tout à la main.
Pas de doute, le maxi trimaran Banque Populaire 11, mis à l'eau il y a un peu plus d'un an, est bien en configuration course. Et c'est le but de l'exercice, faire la route du Rhum à blanc jusqu'au bout, comme le détaille Armel Lecléache.
C'était une bonne répétition, une bonne reconnaissance à quelques semaines du grand départ. Puis de revoir aussi un petit peu là, les pièges qu'il peut y avoir autour de la Guadeloupe, tous les casiers qu'on peut trouver. Il y a aussi pas mal de grains, pas mal de petites choses qu'il faudra prendre en compte. Et c'était bien de venir les revoir, de faire une petite piqûre de rappel.
Arrivé en Guadeloupe le 12 mai, après moins de 8 jours de traversée, le navigateur et son équipe ont effectué plusieurs sorties dans l'archipel pour ne rien laisser au hasard. Comme sur le plan météo, Sébastien Josse, skipper remplaçant, fait partie du voyage.
On peut rester collé dans le dévent, il peut y avoir un grain qui monte à 40 nœuds, et c'est ce qui peut être le plus sollicitant de la route du Rhum, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manœuvres à enchaîner. Selon la phase de la journée, on arrive de jour de nuit, c'est pas du tout la même approche. C'est de la micro-météo et tout peut arriver.
Armel Lecléache est le seul concurrent à avoir poussé cette préparation aussi loin, option qu'il espère gagnante après son chavirage il y a 4 ans lors de la précédente route du Rhum.
C'est sûr que chacun a choisi différentes options pour se préparer. Nous, on a voulu aller reconnaître le parcours de la route du Rhum. On sait d'où on vient. On a vécu une année 2018 et une route du Rhum 2018 très, très, très difficile. La route du Rhum reste une course de légende et elle porte bien son nom.
Armel Lecléache est reparti hier dans l'autre sens. Avec 5 équipiers à bord, ils débarqueront aux Açores. Le navigateur breton sera alors seul aux commandes de son géant des mers jusqu'à Lorient.
Et retrouvez les images de cette navigation sur notre site franceinter.fr.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Une semaine entre premier pas du nouveau gouvernement et campagne pour les législatives. Demain lundi, les nouveaux ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne se retrouveront pour la première fois à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour un conseil inaugural du second quinquennat. Et dans le même temps, ils seront soumis à la période de réserve proche à raison de la proximité des élections législatives. Sur l'agenda judiciaire, à noter demain également le début des plaidoiries des avocats de la partie civile au procès des attentats du 13 novembre. Autre procès, mais à Fairfax, aux États-Unis, et un procès qui passionne l'Amérique. Les débats reprennent demain au procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Procès en diffamation, intenté par l'acteur. Fin des débats vendredi, avant délibération, Sébastien Paour.
Le procès passionne les Américains qui suivent les débats sur la chaîne dédiée Court TV et qui assistent donc aux échanges entre les deux comédiens. L'actrice de 36 ans accuse celui avec lequel elle a été mariée 2 ans de violence conjugale. Elle fait venir les témoins à la barre ou en vidéo, dont sa sœur qui raconte une violente dispute dans l'appartement du couple à Los Angeles. Une ancienne liaison de la star de Pirates des Caraïbes décrit un compagnon ivre presque tout le temps, jaloux et possessif. Son agent pendant 30 ans parle d'une étoile qui s'étiole à partir de 2010 à cause de la drogue et de l'alcool, en retard sur tous les plateaux et qui doit porter une oreillette pour qu'on lui souffle ses répliques. Lui maintient qu'il n'a jamais levé la main sur une femme et accuse son ex-femme d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière. Il lui réclame 50 millions de dollars. Les débats se terminent vendredi prochain avant le début des délibérations des 7 jurés. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et à suivre également sur l'agenda en France, une assemblée générale peut-être houleuse de Total Energy mercredi. Total Energy qui a refusé d'inscrire à l'ordre du jour une nouvelle résolution sur le changement climatique. Et la date à retenir sur l'agenda pour les amoureux du cinéma, samedi 20h30, cérémonie de clôture du Festival de Cannes et le palmarès décerné par le jury présidé par Vincent Lindon. On est ce soir presque à mi-parcours, l'occasion de faire le point sur cette 75e édition, Cannes 2022. Est-ce un bon cru cinématographique? Delphine Evenou a tendu son micro à Yves Jéglé, le journaliste culture pour le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, et très enthousiaste. Sa semaine à Cannes a tenu ses promesses.
Très excitante. Je crois que j'ai compté 18 films. J'en avais peut-être vu 2 ou 3 à Paris. Mais surtout, il y a très peu de déceptions. C'est des très bonnes surprises, alors que c'est, même si c'est génial, c'est assez fatigant parfois de voir 3 films dans la journée. Et c'est assez merveilleux sur le plan cinématographique. Beaucoup de coups de cœur, c'est presque le problème. Alors moi, j'aime énormément James Gray, c'est un de mes cinéastes préférés. Et Armageddon Time, là, son film qui est sans doute le plus autobiographique, est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a le Suédois Östlund avec le titre français Sans filtre, donc un cinéaste qui a déjà eu la palme en 2016, je crois, et qui fait un film complètement dingue, très audacieux formellement, fantastique. Mais il y a aussi, ce matin, je m'y attendais pas, un film iranien dont je connais pas le réalisateur, très très beau, un polar social en même temps sur des femmes assassinées, très religieux. Enfin, il y a des films qui viennent de partout, qui sont vraiment passionnants. Et oui, on attend encore beaucoup de films. Il y a toujours des surprises dans les derniers jours. Donc un festival de Cannes, je trouve que c'est à la fois un marathon et un sprint de la première minute à la dernière minute. On ne sait jamais ce qui va vous saisir. J'ai le souvenir de l'an dernier où l'acteur qui a eu le prix d'interprétation masculin pour Nitram, qui est en salle en ce moment, c'est un film qu'on a vu le dernier jour et qui nous est tombé dessus et qui était formidable.
C'est quoi le festival de Cannes pour un journaliste culture? Vous parliez de marathon.
On peut pas tout faire. Moi, j'ai fait une fête, mais je suis très matinal. Je fais toutes les projections de 8h30. Je vois 3 films par jour. J'écris entre 2 et 3 articles par jour. J'ai fait au moins une interview par jour. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une excitation presque insensée. On n'a pas envie de dormir. Et c'est quand même un moment merveilleux. Moi, je suis fasciné par cet amour surpuissant du cinéma artistique, des œuvres d'art qui a lieu ici. Et je reste un peu comme un enfant, enfin, devant cette émotion-là. Évidemment, il y a 2 ans, c'était très dur. L'an dernier, c'était quand même un joli festival parce qu'on revenait en salle, mais on avait les masques. Cette année, c'est un vrai retour et il y a un monde fou. Alors, faut pas être trop agoraphobe. La croisette est très, très encombrée. Mais c'est très, très beau, ces retrouvailles. Vraiment.
Le Festival de Cannes à suivre, bien sûr, sur France Inter et franceinter.fr. Au générique de cette édition, Florian Dorimini et Maxime Goudard en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Nicolas Sabat et Sébastien Donat. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Retour de température plus fraîche ce lundi avec une baisse beaucoup plus nette à l'ouest qu'à l'est. Conséquence, sur les régions les plus à l'ouest, on pourra parler de retour au calme. Avec encore quelques résidus d'averses en matinée entre le Cotentin, la Bretagne en descendant vers les Pyrénées, le tout sera suivi d'un temps sec et ensoleillé en journée. Ailleurs, la nuit sera souvent ponctuée d'orages, avec toujours des phénomènes forts possibles, en particulier sur les départements maintenus en vigilance orange. L'activité orageuse va se poursuivre en journée, notamment des Cévennes aux Ardennes jusqu'aux frontières du Nord-Est et sur les Alpes, le tout s'évacuant vers l'Allemagne, l'Italie, le Benelux et la Suisse en cours de journée. Le golfe du Lion ainsi que la Provence vont conserver un temps sec, les averses ne touchant que partiellement le Gard, l'Ardèche et la Drôme en journée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.